Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Depuis hier, nous sommes au CHU Donka, Conakry, en Guinée, pour faire le point sur l'épidémie d'Ebola qui touche également la Sierra Leone, le Libéria, le Nigeria. Selon les derniers chiffres de l'OMS, près de 5000 cas ont été enregistrés, dont 2500 décès, des chiffres probablement sous-évalués. Et les professionnels de santé sont en première ligne. Depuis mars 2014, ce sont plus de 120 personnels soignants qui sont morts dans les quatre pays les plus touchés, Guinée, Sierra Leone, Libéria, Nigeria. Ce chiffre, d'ailleurs, on le donne depuis un mois, donc on imagine qu'il est aussi plus élevé que ce qu'on dit en ce moment. Cette crise est donc à la fois révélatrice de l'état des systèmes de santé de ces pays. Les infrastructures de santé sont délabrées, les conditions sanitaires précaires, ce qui facilite la contamination. Mais cette crise désorganise aussi les hôpitaux. Elle rend encore plus difficile l'accès aux soins pour les populations qui hésitent à se rendre dans les centres de santé par peur d'être contaminées. Hier, nous avons fait le point sur l'ampleur de cette épidémie d'Ebola en Guinée. Je vous propose aujourd'hui donc de voir son impact sur le système de santé guinéen. Quelles sont les difficultés que rencontre le personnel soignant ? Pour parler de cette épidémie d'Ebola en Guinée, beaucoup de personnes autour de cette table. Tout d'abord, le docteur Sékou Kondé, qui est directeur national des établissements de soins en Guinée. Le docteur Barry Moumier, qui est chef du service des maladies infectieuses du CHU Donka à Conakry. Le docteur Bakary Oularé, qui est médecin dans ce même service des maladies infectieuses. Et il a été contaminé par Ebola, d'ailleurs, au début de l'épidémie. Aujourd'hui, il est guéri. Jérôme Mouton est également avec nous. Il est chef de mission Médecins sans frontières. Et Olivier Roger, journaliste à RFI, qui est ici en Guinée depuis déjà plus d'une dizaine de jours pour des reportages. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Docteur Sékou Kondé, combien de membres du personnel soignant médical sont décédés en Guinée depuis le début de cette épidémie d'Ebola ?
Nous avons enregistré à ce jour 70 cas d'infection au niveau du personnel. Et malheureusement, dans cet effectif, nous avons perdu 29 agents. C'est-à-dire que la situation est quand même assez dramatique pour le personnel de santé.
Je voudrais vous faire réagir à ça, Jérôme Mouton. On était hier au centre de traitement Ebola, qui est tenu par Médecins sans frontières. Sur les 13 cas confirmés qui étaient là, il y avait quasiment la moitié, enfin un peu moins, 5 qui étaient du personnel soignant. C'est quand même très impressionnant ce que le personnel soignant est en première ligne.
Alors c'est une des particularités des maladies à fièvre Ebola. Dans toutes les épidémies précédentes, ça a été le cas. C'est même ainsi qu'on détecte au départ le plus souvent les épidémies, c'est qu'elles touchent énormément le personnel soignant. Donc cette situation, autant elle était normale au tout début de l'épidémie, avant qu'elle soit parfaitement identifiée dans les têtes, autant elle l'est beaucoup moins après 6 mois d'épidémie. On n'avait plus de personnel soignant affecté à Conakry, et même en forêt, entre le mois d'avril et le mois de juillet. Hélas, en juillet, la tension est retombée, puisqu'on a cru qu'on était sorti de cette épidémie. Et donc, à la suite d'une patiente venue de Sierra Leone et qui a caché son voyage en Sierra Leone au personnel soignant, il y a eu à nouveau une vague de plusieurs personnels soignants qui ont été contaminés à l'hôpital Donka en particulier. Et là, plus récemment, dans les 2 dernières semaines, une nouvelle vague de 7 personnels soignants ont été contaminés, principalement au service de maternité du CMC de Matam. L'investigation est en cours pour comprendre effectivement cette chaîne de contamination et pour savoir si les mesures de protection avaient été suivies correctement.
Mais on imagine que c'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué au moment d'une naissance parce que justement il y a des pertes de sang, donc une contamination beaucoup plus risquée.
Si effectivement cette contamination a eu lieu comme on pourrait le croire à partir d'une césarienne, d'une patiente affectée, là le personnel soignant ça ne serait pas à blâmer de ne pas s'être protégé parce que le niveau de protection est suffisant pour prévenir une infection dans telle conditions, dans les conditions d'une intervention chirurgicale, sont bien plus importantes et hélas, ça restera un risque, je pense, sur le long terme.
On comprend que ce soit plus compliqué. Docteur Bakary Oularé, vous êtes médecin dans le service des maladies infectieuses du CHU Donka. Vous avez été contaminé par Ebola. Vous êtes aujourd'hui guéri. Vous êtes un jeune médecin, un jeune interne. Comment avez-vous été contaminé ?
D'abord, je suis tombé malade le 20 mars 2014. C'est le 7 mars 2014, j'étais avec mon patron, j'étais son assistant, mon chef. Il est tombé malade et tout de suite il m'a appelé, il dit qu'il est malade, donc je suis allé le voir. Je l'ai examiné et on a fait quelques soins à domicile. Malgré tous ces traitements, les choses ne changeaient pas. Donc finalement, il était admis dans notre service. Et c'est après son décès le 12 mars 2014, au retour de son enterrement, donc une semaine après, j'ai ressenti les mêmes symptômes que lui. Et je vous avoue que c'est à partir du 21 mars que l'épidémie a été déclarée en Guinée. Donc tout s'est passé avant même que l'épidémie ne soit déclarée.
Donc, et ce 21 mars, quand l'épidémie est déclarée en Guinée, est-ce que du coup, vous pensez que ça peut être Ebola ou pas encore ?
Lorsque j'ai commencé à ressentir les mêmes symptômes que celui que je suivais, tout de suite, j'étais balancé dans la tête. Je me dis, est-ce que j'ai Ebola? J'ai pas Ebola. Donc, j'ai appelé pas mal de gens pour leur dire que je fais une fièvre inexpliquée. Et je suis allé même jusqu'à appeler un ami pour dire si toutefois il peut lire sur Ebola, me faire le feedback pour que je puisse faire une étude comparative. Chose qui fut faite. Et puis, je me suis dit, non, j'ai Ebola, j'ai pas Ebola. Mais finalement, j'ai décidé de venir dans le service. Je suis allé voir le chef de service. Je lui ai dit, mais attention, moi, je fais une fièvre inexpliquée. Et puis, du coup, j'ai presque les mêmes symptômes que mon patron qui est décédé. Donc, vraiment, j'ai peur. Il me dit, bon, garde ton sang-froid. Il faut accepter qu'on fait un test de prélèvement chez toi pour écarter éventuel Ebola. Je lui ai dit, d'accord, et j'ai accepté. Ils m'ont prélevé une fois. Et ils m'ont prélevé deux jours successifs, ces deux prélèvements.
Ces prélèvements sont partis où? Parce qu'à l'époque, je pense qu'il n'y avait pas encore de moyen de faire l'examen en Guinée.
Bon, non, en ce moment, le laboratoire était déjà installé. Un centre de traitement, donc, était déjà créé.
Donc, l'Institut Pasteur avait déjà envoyé quelqu'un ici pour faire les tests, hein. C'est ça, docteur Moumier, c'est l'Institut Pasteur qui fait les tests ici.
On a réagi très tôt, dès qu'on a vu les premiers signes chez certains de nos patients, on s'est dit, est-ce que c'est pas Ebola? Nous avons, comme je l'ai dit, réagi, on a ouvert le centre de traitement des colériques que nous gérions, donc on l'a complètement isolé là. On s'est dit, bon, on va l'ouvrir pour amener les premiers patients. Donc c'est vrai que ce qui raconte le premier cas, que nous supposons un cas index, puisque c'était un de nos médecins, il est effectivement tombé malade et en 2-3 jours, il est décédé.
Donc les examens biologiques ont été faits, l'Institut Pasteur était donc déjà présent pour analyser
tout à fait.
Et Ebola, c'est ça. Donc, docteur Oularé, les examens sont faits, biologiques, et on vous dit que c'est Ebola.
Oui,
effectivement. Vous réagissez comment ?
Du coup, j'étais paniqué et pour moi, c'était la mort. Parce que je vous avoue que le Guinée ne connaissait pas Ebola. Nous avons étudié ça en classe, mais vraiment voir un cas Ebola et traiter, vraiment, c'était pas du tout. On n'a jamais, c'était notre première fois de voir. Donc, et surtout aussi, lorsque l'épidémie a été annoncée et les informations qui accompagnaient, en disant qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement, et connaissant les informations aussi qu'on a reçues sur la Guinée forestière, ça a fait beaucoup de ravages. Donc, j'ai eu peur. Mais.
Qu'est-ce qu'on vous a donné quand même comme traitement, parce qu'il n'y a pas de traitement spécifique, mais finalement on soigne les symptômes.
Le traitement est purement symptomatique. C'est ce que je faisais même avant même que je ne sois au centre de traitement. C'est que quand vous avez des céphalées, on vous donne des antalgiques, la fièvre, on donne des médicaments contre la fièvre. Donc c'est un peu ça, le traitement est purement symptomatique.
Et de la réhydratation aussi?
Oui, la réhydratation, surtout la réhydratation qui est hyper importante. Un autre facteur plus important dans l'affaire d'Ebola, c'est la prise en charge psychosociale. Donc si quelqu'un perd le mental.
Et comment vous avez gardé le mental alors, vous?
Petit à petit, l'espoir renaît et puis aussitôt j'ai accepté d'être positif dans la tête et puis je me suis dit que je vais m'en sortir.
Et vous en êtes sorti?
Oui.
Au bout de combien de jours?
Voilà, moi j'ai fait juste quelque chose de 10 jours au maximum. Et même au centre, malgré que moi je prenais tout ce qu'on me donnait comme conseil, comme traitement, mais aussi j'encourageais d'autres personnes au centre qui ont fait comme moi, et je les encourageais, j'ai dû faire comme moi, parce que parmi le groupe qui était dedans, j'étais le premier patient à être guéri, donc ils voyaient à moi comment j'étais, donc je les encourageais.
Et... Quelle a été la réaction de votre famille à la fois à l'annonce d'Ebola et à l'annonce de votre guérison?
Ma petite famille était informée de la situation, mais la grande famille n'a pas voulu du tout informer parce que ça allait créer de la psychose. Mais au-delà de tout ça, ils venaient...
Et personne n'a été contaminé dans votre famille?
Non, personne n'a été contaminé. C'est parce que lorsque j'ai commencé à avoir les mêmes symptômes, j'étais dans le doute. Est-ce que j'ai Ebola? Est-ce que j'ai pas Ebola? Tout de suite, j'ai accepté de mettre ma famille à l'écart. Et les enfants, j'ai dit, personne ne rentre dans la chambre. Et je reste avec madame. Et quand je vomissais ou bien quand je faisais les selles, je mettais l'eau de Javel moi-même, je remuais. Et après 30 minutes, j'appelais madame, va jeter et puis lave ta main avec du colloïde. Elle dit pourquoi ? Je dis non, fais ce que je te dis de faire et puis c'est fini.
Et maintenant, le reste de la famille est au courant, j'imagine. Parce que là, vous témoignez sur un média comme RFI, j'imagine que maintenant, voisins, tout le monde est au courant.
Comment la famille, comment les voisins ont été informés. C'est lorsqu'ils suivaient ma famille, ils venaient chaque fois prendre la température. Vous savez, dans l'exercice médical, il y a des personnes qui sont un peu indiscrètes. Ils sont allés jusqu'à dire dans mon quartier que non, on a un malade. Il y a le docteur qui est chez vous ici qui est malade. Donc, nous venons chaque fois contre sa famille si quelqu'un n'a pas la maladie. Tout de suite, l'attention du quartier était fixée sur ma famille et c'était la stigmatisation.
Parce que cette stigmatisation, elle se manifeste comment?
Bon, vous savez, nous sommes en Afrique, et surtout en Guinée, plusieurs familles sont regroupées et il y a des visites quotidiennes, donc cela a été supprimé chez moi. Au-delà de tout ça aussi, ma femme faisait des petits commerces, il revendait de l'haricot, il faisait les jus de gem-gem, donc c'est ce qu'il faisait pour m'épauler dans ma dépense. Lorsqu'on a informé le quartier que j'avais ça, tout de suite, ils ont arrêté de venir acheter. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent et puis les gens ne venaient plus acheter. Et je vous avoue que j'avais un frère même qui était venu me rendre service. Lorsqu'on lui a annoncé, il était dans le doute. Mais lorsqu'il a appris cette nouvelle, il s'est dit, est-ce que je l'ai même touché? Est-ce qu'il
m'a pas contaminé? On comprend d'ailleurs que tout le monde ait peur. Voilà. Et aujourd'hui, cette stigmatisation, cette discrimination, est-ce que vous en êtes encore victime en tant que patient guéri, en tant que médecin qui travaille justement auprès de malades susceptibles d'avoir Ebola ou pas?
Ça a diminué par rapport au début. Au début, ce n'était pas du tout facile, mais ça a beaucoup diminué aujourd'hui. Jusqu'à présent, mon concessionnaire, elle est analphabète, elle ne comprend pas les choses. On est venu le raconter.
Votre concessionnaire, c'est-à-dire le propriétaire de l'endroit où vous habitez, la maison dans laquelle vous êtes. Oui. Elle ne vous a quand même pas chassé?
Elle est dans le doute. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, si même aujourd'hui, si elle se rend compte, je serai mis à la porte demain.
Non, j'espère que non. Parce que ce qu'il faut lui expliquer à votre propriétaire, c'est que vous êtes guéri. Vous n'avez plus de virus en vous.
Vous savez, ils ont quelque chose qui est déjà cancré dans la tête. C'est des analphabètes, ils ne comprennent pas, même si tu les expliques. Parce que moi, j'ai essayé de les expliquer un peu clairement par rapport à cette question d'Ebola, la maison, comment utiliser l'eau de Javel. Ils acceptent de faire ce que je leur dis parce que je suis médecin, parce que je peux apporter un peu. Mais au fond, ils ne croient pas. Donc, c'est un peu ça, jusqu'à présent, ce problème.
Docteur Oulare, vous êtes en train de me dire qu'en venant témoigner comme ça sur RFI, vous prenez un risque de perdre votre logement?
Oui, je confirme. Franchement, je confirme. C'est un peu ce problème.
Priorité santé sur RFI.
Aujourd'hui, Priorité Santé est au CHU Donka, à Conakry, en Guinée, pour faire le point sur cette épidémie d'Ebola. Docteur Sékou Kondé, vous êtes directeur national des établissements de soins. Vous avez donc en charge la responsabilité des hôpitaux, des centres de santé, mais aussi du personnel qui est à l'intérieur. Qu'est-ce que vous faites pour soutenir des médecins comme le docteur Oulare, qui explique bien finalement qu'il a eu une perte de revenus due à la maladie, à la stigmatisation, la peur de perdre son logement aujourd'hui parce qu'il témoigne en tant que personnel soignant guéri? Qu'est-ce que vous faites pour les aider?
Le gouvernement est en train de prendre une série de mesures parce que, comme je le disais en introduction, le personnel de santé paye un lourd tribut pour cette maladie. La première des choses, c'est de se dire, bon, pour une prise en charge correcte, on a besoin de sécuriser le personnel. Donc, il faut leur trouver absolument les moyens de protection.
Est-ce qu'ils les ont maintenant? Est-ce qu'au moins les gants, les masques sont disponibles?
Dans les centres de traitement, je peux dire, avec l'appui de MSF, le problème ne se pose pas.
On est bien d'accord. Les centres de traitement, il y a tout maintenant, ce qu'il faut. Le autres, risque, il est intermédiaire. Il est avant.
Dans les centres de santé, il y a des efforts qui ont été faits, mais je dois avouer que par rapport à la disponibilité qu'il faut pour l'ensemble du système de santé, sur la base des statistiques que nous avons, on a besoin à peu près d'un million de paires de gants pour l'ensemble du pays. À ce jour, la disponibilité est encore à 200 000 paires. Ça veut dire qu'il y a un grand gap. Et c'est pour cela que nous avons été très heureux d'avoir l'offre de la Banque mondiale qui va nous permettre dans les semaines qui viennent, avec l'appui de l'UNICEF, de combler ce gap.
Et la Banque mondiale, là, vous donne l'argent nécessaire pour acheter ces gants ou c'est un prêt?
C'est un don de la Banque mondiale.
Mais ce qui m'impressionne dans ce que vous dites, c'est que ça fait plus de 6 mois que vous êtes en état d'épidémie. Comment la communauté internationale n'a pas réagi plus vite pour vous fournir des gants? Moi, personnellement, quand je suis en reportage en Afrique, hein, ça fait 10 ans que je fais cette émission, que je vais sur le terrain, dans les hôpitaux, et que je demande aux médecins de quoi vous manquez, à chaque fois, on me dit, mais on n'a même pas de gants, on n'a pas de thermomètre, on n'a pas la base de ce qu'il faut. Comment ça se fait que ça mette autant de temps?
Cela s'explique, de mon point de vue, par deux éléments. D'abord, pour la plupart des gouvernements africains, bon, dans le discours, hein, la santé est une priorité, mais au moment de l'allocation des ressources, on se rend compte, hein, que le budget qu'il faut est tout à fait en décalage par rapport aux besoins. Lorsque je prends, par exemple, le cas spécifique de la Guinée, on accorde 2,5% du budget national au secteur de la santé, ce qui est nettement insuffisant, hein, par rapport à la déclaration
d'Abuja, où les États s'étaient engagés à 15% du budget.
À 15%.
À consacrer 15% du budget de l'État à la santé. Vous dites que pour l'instant en Guinée, c'est
2,5%. 2,5%. Et c'est pour cela que lors des derniers États généraux qui se sont tenus, nous avons été très heureux, hein, de l'annonce faite par le gouvernement et particulièrement par le président de la République de dire oui, qu'il prenait en considération notre demande, mais qu'il faut être réaliste, on ne peut pas passer de 2,5% à 15%, mais des engagements fermes avaient été pris pour que l'année prochaine, en 2015, on soit au moins à 7% du budget.
Donc on a démarré sur la question des gants. Il faudrait déjà que le personnel soignant puisse se protéger. Les gants, c'est une chose, mais moi, quand j'entends ce que vient de nous raconter le docteur Oularé sur les conséquences de la contamination en termes de discrimination dans son quartier, de peur de perte de logement, de perte de revenus pour sa femme, on parlera après de la question de son salaire qui est encore un autre problème. Qu'est-ce que vous faites là, vous, pour soutenir financièrement votre personnel soignant?
Ce qui est fait au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a des allocations qui sont faites aux familles affectées, et en termes de revenus, mais en termes de nourriture. Le temps d'attendre que la situation évolue de façon un peu plus positive, parce qu'on ne voudrait pas résoudre la situation au cas par cas. Donc c'est une préoccupation que nous avons et qui va être résolue, hein, dans les jours à venir.
Mais même chose, 6 mois, là, depuis le début de l'épidémie, c'est long quand même pour réagir.
Vous savez, on a beaucoup évolué, on a beaucoup changé de logique au cours de la lutte. Par exemple, on parlait tout de suite de la question des gants. Au début, on disait, non, bon, hein, on doit utiliser des normes 0,4 paires de gants pour 1000. Donc, ce n'était pas ce que les premières estimations avaient été faites. Et après, on a dit non. On ne peut pas quand même dire qu'il faut se laver la main avant ou après. Il faut changer de logique. Donc on est dans une dynamique où les situations évoluent et elles changent. Il faut qu'on l'intègre en se disant, eh oui, on est face à une situation d'urgence et il faut des mesures appropriées pour cela.
Juste un dernier mot, Olivier Roger. On a parlé de l'impact de cette épidémie d'Ebola sur le système de santé. On peut dire un mot sur l'impact de l'épidémie aussi sur l'économie guinéenne?
2 points de croissance d'après le ministre de l'économie, qui a révisé par 2 fois cette diminution de croissance. Des chômeurs dans le secteur hôtelier, 80% de fréquentation en moins.
Notre hôtel est vide.
Dans le secteur agricole, des paysans qui restent avec des récoltes, notamment pommes de terre dans le Fouta, qui sont exportés à 60% vers le Sénégal en raison de la fermeture des frontières, les gens restent avec leurs récoltes. Des compagnies minières qui sont parties ou qui ont gelé leurs projets pour la plupart, et bien évidemment mis leur personnel en disponibilité. Donc les répercussions économiques sont énormes. Le gouvernement, toujours selon le ministre de l'économie, a besoin de 90 millions de dollars pour boucler son budget 2014 et espère recevoir 250 millions de dollars pour le budget 2015. Les discussions ont commencé avec la Banque mondiale, le FMI. Je crois savoir que 40 millions de dollars vont être avancés en préconcessionnel sur des enveloppes qui étaient déjà prévues mais qui sont débloquées tous les 6 mois. Mais bien évidemment, les autorités guinéennes vont faire le maximum auprès des bailleurs, auprès des partenaires, l'Union européenne, les fonds saoudiens, pour tenter de boucler leur budget et le budget de l'an prochain. Sinon, c'est compliqué. Ce qui est très compliqué aussi, c'est qu'il n'y a pas de système d'indemnisation de chômeurs. Il n'y a pas encore de système d'indemnisation de paysans ou de soutien aux filières. Donc le gouvernement réfléchit à la possibilité, j'insiste, de mettre en place des soutiens.
On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de l'impact de cette épidémie d'Ebola sur le système de santé en Guinée.